France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Didier Queloz, astrophysicien, Université de Cambridge et de Zurich.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
En 1584, à Londres, un philosophe italien en exil publie un livre audacieux de l'infini, de l'univers et des mondes. Son auteur, Giordano Bruno, vient de quitter l'Italie après avoir rompu avec l'ordre dominicain. L'Europe découvre à peine les conséquences de la révolution copernicienne. Déplacer la Terre du centre est déjà un bouleversement, mais Bruno, lui, va plus loin. Il supprime le centre lui-même. Dans son ouvrage, il écrit ces mots qui vont lui coûter cher. Il n'y a donc pas un seul monde, une seule Terre, un seul soleil, mais autant de soleils que nous envoyons briller autour de nous. En 1584, aucune lunette astronomique ne permet d'étayer ses propos. Bruno ne parle pas en observateur muni d'instruments, mais en philosophe. Son raisonnement est métaphysique, un dieu infini ne peut produire qu'un univers infini. Refuser l'infinité des mondes, ce serait limiter la puissance divine. Une telle vision bouleverse l'ordre intellectuel hérité d'Aristote et de la théologie médiévale. Si les mondes sont innombrables, si l'univers est sans centre, que devient donc la singularité de l'humanité? Arrêté en 1592, transféré à Rome, Bruno est jugé pendant près de 8 ans. En 1600, il est condamné pour hérésie et brûlé vif. Pendant 4 siècles, la pluralité des mondes reste une hypothèse, donc philosophique. Les étoiles demeurent des points lumineux. Et puis en octobre 95, à l'Observatoire de Haute-Provence, les astrophysiciens Michel Mayer et Didier Queloz annoncent la découverte d'une planète autour de l'étoile 51 Pegasi. Pour la première fois, un monde est détecté en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Ce que Bruno formulait comme une nécessité philosophique devient alors une donnée mesurée. Bonjour Didier Queloz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Cette découverte, donc la vôtre en 1995, détection d'une exoplanète qui vous a valu 24 ans plus tard le prix Nobel de physique avec Michel Mayer. Cette découverte a bouleversé l'astronomie moderne, mais elle vous a aussi inscrit, d'une certaine manière, dans cette longue histoire autour de la question de la pluralité des mondes. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à cette lignée d'astronomes ou de penseurs comme Giordano Bruno, par exemple, voire même comme Démocrite ou Épicure dans l'Antiquité ?
Oui, c'est intéressant de voir l'évolution des idées. En fait, il y a quand même une grande différence entre le travail de ces penseurs du passé, qui n'avaient aucun problème à imaginer la possibilité d'avoir d'autres planètes, d'autres soleils. C'est même repris de manière bien antérieure à la malheureuse histoire de Giordano Bruno. Par contre, ce qui nous diffère vraiment, c'est que nous, on collectionne des données et à partir de ces données, on en tire des conclusions. Et la donnée qu'on a réussi à obtenir en 1995, ça a été une série de données obscures qui montraient le mouvement d'une étoile, qui nous permettaient de conclure à coup sûr de l'existence d'une planète autour de cette étoile. Et ça, c'est toute la grande différence. Et c'était quelque chose qui était attendu quelque part, mais pas exactement de la manière dont ça s'est passé.
Ouais. On va évidemment revenir sur cet anniversaire de l'année dernière, des 30 ans de cette découverte. Et puis, c'est l'occasion de comprendre aussi, Didier Queloz, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin un jour d'un prix Nobel de physique? Et si l'on remonte à votre enfance, visiblement c'était assez mal barré cette histoire pour vous, non?
Oh, pas tout à fait. Vous savez, moi on me pose la question, mais bon, l'astronomie ça a été une passion, t'as fait des télescopes, etc. Et ils sont toujours très déçus les gens de constater que, eh bien non, en fait la raison pour laquelle je suis devenu un scientifique, en fait c'est que je suis né un scientifique. J'ai une curiosité qui est, on va le dire, insatiable. Je suis très très curieux et j'ai vraiment besoin de savoir. Et je suis parti un peu dans les études de physique, presque par hasard ou par envie de ne pas trop choisir quoi faire, mais surtout d'apprendre comment je peux alimenter cette curiosité. Donc j'étais un élève, on va dire. Alors, on ne va pas dire que j'étais un mauvais élève, mais disons que j'étais plutôt un bon élève, mais...
Vous n'étiez pas le premier de la classe,
alors,
quand même.
J'étais sûrement pas le premier de la classe, parce que j'adorais jouer, j'aimais bien faire d'autres choses. Et puis, j'ai toujours eu une orthographe qui était très mauvaise, je suis dyslexique, j'ai tendance à écrire assez mal, et ça m'a toujours bien descendu les moyennes.
Ouais. Et alors cette enfance, justement, dans ces années 70, hein, à Genève, dans cette Suisse dont vous dites que vous êtes un produit de l'éducation cantonale ou fédérale, d'ailleurs.
Absolument. Moi, je dois dire, je suis né d'une famille moyenne. Mes parents n'ont pas fait d'études supérieures, ne sont pas allés à l'université.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents ?
Alors, mon père est comptable, et puis ma maman, en fait, elle était secrétaire de formation, puis elle est devenue enseignante. Donc, on va dire que c'est des gens qui étaient bien dans la société. On n'avait rien d'extravagant. On avait une vie, on va dire, assez standard. Moi, je suis né dans un quartier qu'on pourrait qualifier de populaire. Je suis allé dans des écoles qui étaient très mixtes. Mais vous savez, c'était les années 70. C'était le renouveau de l'éducation. On appliquait Piaget. Il y avait toutes ces écoles où il fallait libérer les contraintes. On commençait à se dire, il ne faut plus de notes. Oui. Et moi, j'ai beaucoup bénéficié de ça. C'est une éducation assez légère, avec des contraintes qui étaient, on va dire, juste ce qu'il fallait. Et puis moi, ça me convenait parce que l'école, on va dire, m'a toujours un peu ennuyé en tant que zone d'apprentissage. J'ai jamais réussi à trouver la bonne manière pour moi d'alimenter ma curiosité parce que je trouve que tout va trop lentement ou ça correspond pas à mes envies. C'est vraiment en arrivant à l'université que là, j'ai pu m'alimenter au niveau qui me correspondait.
Vous êtes ennuyé un peu à l'école ? C'était complètement...
Ouais. Non, parce qu'il y avait les récréations, puis il y avait tous mes collègues de classe, donc mes camarades. Donc là, j'avais vraiment... J'aimais bien aller à l'école. Mais j'ai jamais trouvé l'école passionnante.
Ouais. Mais dans un système français, vous n'auriez probablement pas réussi de la même manière, non, Didier
Alors,
Culot ?
C'est une question assez intéressante. C'est vrai que j'ai souvent cette question-là. C'est possible que dans un système peut-être trop élitiste, j'aurais probablement jamais réussi comme ça. Ouais. C'est tout à fait possible.
Mais c'est un bon message quand même pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui s'emmerdent à l'école, de se dire que, bah, écoutez, pourquoi pas, on peut in fine arriver à un prix Nobel un jour.
Disons, il y a quand même les progrès qui ont été faits dans la compréhension de l'apprentissage et de l'évolution du cerveau. Maintenant, on connaît bien mieux le comportement du cerveau. On sait très bien qu'un cerveau n'est pas fini avant l'âge de 25 ans. On sait très bien qu'il y a des moments de transformation majeure aux environs de l'adolescence qui... vraiment littéralement reset le cerveau, d'où devant des bons élèves qui deviennent moins bons, puis des moins bons qui deviennent meilleurs. Donc maintenant, on a vraiment une connaissance de l'éducation qui, quelque part, devrait nous aider à mieux comprendre que des sélections trop précoces ou trop intenses n'ont absolument aucun sens parce que ça ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de nos cerveaux.
Donc vous étiez un élève doué finalement, mais pas reconnu en tant que tel.
Il ne faut quand même pas exagérer. Je pense que j'étais un bon élève qui est passé inaperçu. Et comme j'étais sympathique, j'étais plutôt du bon côté des élèves de la classe.
Ouais. Vous parliez d'une maladie grave dans l'enfance et le fait d'avoir échappé de justesse à la mort. Est-ce que cet épisode a posé un regard différent justement sur la façon dont vous regardez la vie aujourd'hui ?
C'est intéressant comme point de vue parce que c'est quelque chose que, évidemment, je n'ai pas réalisé. Quand j'étais enfant et adolescent, je l'ai eu très jeune. J'étais au début de ma scolarité, j'avais 4 ou 5 ans. Je ne sais plus si c'est 4 ans ou 5 ans, j'ai eu une méningite méningocoque. C'est une maladie qui, dans ces temps-là, en fait, menait quasiment à la mort. Ça s'est joué peut-être à l'espace d'une heure ou deux, trop tard à l'hôpital. Mon corps a bien réagi aux antibiotiques de l'époque et j'ai survécu. La chance de survie et de ne pas finir avec des dégâts au cerveau était faible. Donc j'ai peut-être quelques dégâts qui m'ont fait devenir un meilleur physicien. Ça fait la plaisanterie de ma sœur. Merci Sophie. mais moi, après, avec le recul, je me suis dit, ah mais c'est quand même incroyable, j'ai une vie absolument extraordinaire, j'ai échappé à cette mort jeune, et puis maintenant je me retrouve à faire des études que j'adorais en physique, je partais dans cette profession, et je me suis dit, bah, finalement, C'est tout gagné. Et peut-être ça m'a aidé, ça a alimenté une philosophie de vie qui me porte beaucoup, qui est de jamais regarder en fait en arrière, mais toujours de regarder en avant, de se dire, ah ben, c'est un jour de gagné, c'est quelque chose de bien, ben, on va faire ça. Donc une sorte d'optimisme permanent qui, je pense, m'ont beaucoup aidé dans mon métier de chercheur et qui m'ont peut-être permis d'oser des choses que d'autres personnes n'auraient pas fait.
Ouais. La question de la mort, quand on est astrophysicien, Didier Queloz, est-ce que quand même on n'a pas forcément une façon de relativiser notre place sur Terre tellement on est ridicule par rapport à l'immensité du monde ?
Bon, c'est une vaste question qui tient plus à des problèmes, on va dire, philosophiques ou de psychologie de son propre soi. Moi, j'ai une assez grande légèreté par rapport à ça. Je ne dis pas que je vais mourir, mais disons, je vois le monde de manière assez légère, et ce qui me permet d'avoir une attitude, on va dire, une sorte de gentillesse naturelle auprès de tout. On pourrait dire une sorte de naïveté, quelque part, mais aussi, j'ai tendance à voir les choses positivement, parce que je me dis, c'est toujours ça de gagner, en fait. Notre passage sur Terre, il est quand même relativement restreint. Essayons d'en faire le mieux possible, et essayons d'en faire le mieux avec les autres. Maintenant, je ne pense pas qu'on a besoin d'être un astrophysicien pour réaliser ça. Je dirais que c'est quelque chose qu'on peut tous vivre avec un petit peu d'introspection, puis en se posant des questions fondamentales, pour autant qu'on ne soit pas en train de se battre simplement pour assurer des choses vitales comme avoir un logement, avoir sa nourriture, des choses de base. Mais si on a ces besoins fondamentaux qui sont acquis, je pense que tout le monde peut faire ce travail.
Comment vous avez choisi l'astrophysique alors précisément, Didier Queloz ?
Alors c'est un peu une série de hasards. Encore une fois, je suis arrivé en physique par curiosité, en me disant, en étant physicien, c'est sûr que je n'apprendrai pas une profession. C'est un peu des études généralistes, physicien. Être physicien, ça mène à tout. Hein. On en trouve dans toutes les positions de la société, des gens qui ont fait des études de physique. Donc c'est quelque chose qui me plaisait. Et au cours de mes études, j'ai vraiment adoré la physique. Et en l'apprenant de mieux en mieux, y a des sujets qui m'ont intéressé plus que d'autres. Et les grands sujets de l'époque, c'était vraiment les particules élémentaires, ce qu'on appelle les hautes énergies. C'était les moments des séries de prix Nobel avec les découvertes du CERN. Et puis, il y avait ces grandes questions, les trous noirs, le Big Bang. Ça m'a toujours fasciné et ça a toujours été perçu comme étant une physique difficile. Alors, comme j'étais un étudiant qui aimait bien la difficulté et que j'étais assez doué, je me suis dit, je vais faire cette physique. Et en fait, jusqu'à la fin de mes études, j'hésitais entre les deux. En fait, j'ai fait les deux. Et puis à la fin, j'ai fait des travaux pratiques, comme on doit le faire en tant que physicien. J'ai fait des travaux pratiques avec des détecteurs de particules, et puis j'ai fait des travaux pratiques avec des télescopes qui observaient des objets. Et puis je me suis dit, je me vois vraiment pas continuer en travaillant dans un laboratoire souterrain avec des détecteurs de particules, parce qu'en fait
donc c'est ça. C'est le CERN, hein, en l'occurrence, sous la frontière franco-suisse.
Exactement, c'était pas au CERN en l'occurrence que j'ai fait, mais ce genre de travail, je me verrais plus aller dans des endroits plus exposés, au sommet des montagnes. Et là, il y a peut-être un petit élément personnel, j'aime beaucoup la nature. Je me suis beaucoup promené en forêt avec mes parents. J'aime beaucoup le ski, j'ai beaucoup skié, j'étais professeur de ski. Donc, en fait, pour moi, le plaisir d'être dehors, d'être au sommet d'une montagne, je pense que ça m'a légèrement fait osciller vers l'astrophysique. Donc, c'est vraiment une série de hasards, peut-être de choix émotionnels comme ça, qui m'ont fait partir progressivement mais l'astrophysique. Mais c'est surtout la curiosité qui m'a emmené à faire des études. Ouais. À la fin, je pense que j'aurais pu à peu près tout faire. Simplement, je me suis retrouvé en astrophysique.
Le terme osciller, d'ailleurs, il est intéressant en astrophysique, hein, l'oscillation.
Oui,
c'est quelque chose de particulier quand même.
Oui, ça aussi beaucoup. On aime bien les choses qui oscillent parce qu'on peut calculer des fréquences, etc. Il y a beaucoup de travaux qu'on peut faire. Au niveau mathématique, c'est bien l'oscillation.
On va voir ce qui vous a emmené sur la route des exoplanètes et puis de cette toute première détectée donc avec Michel Mayor en 1995. Didier Queloz, vous êtes notre invité au carré aujourd'hui sur France Inter.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Oui, on a eu la chance d'être les premiers à découvrir la première planète extrasolaire. C'est pas tout à fait du hasard, en fait. On a suivi énormément d'étoiles et il s'est avéré qu'une de ces étoiles, il y avait la présence d'une planète autour. La technique est simplement d'essayer de détecter la présence de la planète en regardant l'étoile. Alors ce qu'on regarde, c'est la vitesse de l'étoile. Et si la vitesse de l'étoile bouge, varie, ça nous dit qu'autour tourne quelque chose qui la perturbe. C'est clair que nous, on était les premiers, mais avec peut-être 50 ans de recul, on dira, voilà, c'est dans cette période-là de l'histoire qu'on a découvert les premières planètes. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça va se voir.
Voilà, c'est vous qu'on entendait, Didier Queloz, en 1996 sur France 2, donc un an après la découverte de votre première exoplanète, vous qui êtes astrophysicien et prix Nobel de physique, notre invité cet après-midi. Comment justement, d'abord, vous êtes intéressé aux exoplanètes, alors, puisque là, on a vu comment vous avez approché l'astrophysique, et puis ensuite, il faut encore préciser les choses.
Oui, l'histoire est vraiment intéressante, parce que c'est vraiment une série de réflexions qui est, on pourrait presque, un jeu de chance ou d'opportunité. Quand j'ai commencé mon travail de thèse, l'idée, c'était de faire une machine qui était meilleure que les machines précédentes, qui mesurent des vitesses. Donc, on mesure des vitesses, c'est pas des machines dont on appelle ça des spectrographes, qui vont mesurer des vitesses.
Mais des vitesses de quoi ?
Des vitesses d'étoiles. On mesure des vitesses d'étoiles. Et c'était quelque chose que mon professeur, Michel Mayor, avait déjà développé dans les années, la fin des années 80. Son premier instrument, c'était en 77. Et puis là, c'était vraiment une sorte d'idée de faire mieux. Et puis l'observatoire de Haute-Provence voulait également un spectrographe pour utiliser sur son télescope de 193 durant les nuits de lune, parce que les nuits de lune, c'était trop brillant pour faire des objets plus faibles. Donc voilà, c'est ce mélange des deux intérêts qui ont fait qu'un instrument a été pensé. Mais l'instrument, au début, c'était pas très clair la précision qu'il allait obtenir. C'est pour ça qu'au début de ma thèse, le mot planète n'avait jamais été prononcé. On pensait plutôt des objets sous-stellaires, c'est-à-dire des objets plus petits que les étoiles. Mais on n'allait pas oser aller jusqu'aux planètes. Donc pour bien réaliser une étoile, la masse minimum pour être une étoile, c'est 80 fois la masse de Jupiter. Donc on s'est dit, oh, peut-être qu'on va trouver des objets plus petits, 30 fois, 40 fois, 20 fois, ce qu'on appelle des naines brunes. Et ça, c'était un sujet assez populaire à l'époque. Donc c'était vraiment un peu cette idée. Et puis,
Pardon, juste petite parenthèse. Pourquoi vous dites on n'osait pas aller jusqu'aux planètes,
hein? Parce qu'il faut bien réaliser que dans les années 90, l'idée de chercher des planètes, c'était à la limite, on va dire, c'était pas très bien vu, c'était pas vraiment quelque chose qu'on faisait. Il y avait très peu d'équipes qui s'étaient osées, et lesquelles qui avaient osé faire quelque chose, eh ben, elles n'avaient rien trouvé, ou alors pire, il y avait eu des fausses annonces. Dans l'histoire d'astronomie, il y a une série de fausses annonces de découvertes de planètes qui faisaient qu'on dirait que c'était un terrain de recherche qu'on appelle plombé, miné. Ouais. Donc mais il ne fallait surtout pas y aller.
Mais parce qu'on imaginait qu'il ne puisse pas y avoir d'autres planètes dans d'autres systèmes solaires, les années 90.
Oui, alors c'est tout le paradoxe. C'est qu'on avait le système solaire, et puis on avait une théorie pour le système solaire, et on se disait que cette théorie doit fonctionner pour les autres planètes. Donc on doit avoir d'autres planètes sur d'autres étoiles. Et les premiers à avoir osé monter un programme, c'était un groupe de Canadiens qui, dans la fin des années 70, avaient commencé un programme qu'ils ont fait pendant plus de 15 ans. Ils avaient une dizaine d'étoiles, comme le Soleil, et ils ont essayé avec les mêmes techniques, mais alors beaucoup moins un instrument beaucoup moins sophistiqué, ingénieux mais moins sophistiqué, et ils ont observé ces objets, et ils ont rien vu. Et à ce moment-là, on savait qu'ils n'avaient rien vu, donc il y avait une sorte d'idée que peut-être c'est rare, l'idée qu'il y ait des planètes. Peut-être c'est rare, parce qu'on avait bien une idée de principe, mais on ne savait pas est-ce que c'est un phénomène qui nécessite tellement d'éléments ensemble, et puis il arrive ou il n'arrive pas. Donc on était dans cette incertitude, et le fait que plusieurs se soient cassés les dents, ben, c'était un peu risqué. Donc l'idée, ce n'était pas de démarrer là-dessus, mais de démarrer quelque chose de plus sûr. Puis au fur et à mesure que l'instrument, on avait maintenant l'assurance qu'il avait la possibilité de détecter ces planètes, c'est-à-dire que la précision était vraiment au niveau qu'on l'attendait pour ce genre de programme, c'est-à-dire à peu près 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, pourquoi? Parce que 10 mètres par seconde, ça correspond à la vitesse d'un homme qui court, hein, à peu près, c'est l'effet de Jupiter, notre Jupiter, sur le Soleil. Donc on s'est dit, ben voilà, nous on a une machine qui peut détecter un autre Jupiter sur une autre étoile.
Donc c'était l'idée d'aller chercher un analogue à Jupiter ailleurs.
C'était l'idée, et bien sûr. Et on s'est dit, ben, les Canadiens, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils n'ont pas pris assez d'étoiles. Donc on va en observer 10 fois plus. On en avait 140, on va démarrer un programme. Donc d'accord, peut-être que ce n'est pas fréquent, mais ça ne doit pas être super rare. Donc en prenant beaucoup, on va bien trouver quelque chose. Et ça, c'était l'idée de base. Mais Michel étant très prudent, il avait quand même peur que le temps télescope ne soit pas attribué. Il a fait une sorte de proposition, disant voilà, on va chercher tout ce qui est plus petit qu'une étoile autour des étoiles, ce qui était assez malin.
Le temps télescope, c'est le temps qu'on accorde aux astronomes pour pouvoir justement observer. Hein.
Absolument, c'est ça, parce qu'on devait demander le temps, en l'occurrence demander le temps qu'on ne possède pas, on n'a pas l'accès au télescope, donc il faut une demande qui soit raisonnable pour faire. Et on a fait une demande raisonnable en disant bah oui, on peut trouver ces objets et peut-être aussi des planètes. Ouais. Voilà, c'était ça. Mais quand on est parti, quand le programme a démarré, il y avait aucune attente, ni de ma part, ni de Michel, d'aller trouver quelque chose aussi vite. Pour moi, c'était évident que ça prendrait des années. Michel m'a dit, tu sais, ton programme de thèse, ben voilà, il va s'arrêter là. Mais je dis, mais bien sûr, c'était déjà génial d'avoir commencé le programme. Et puis rien ne s'est passé comme ça.
Ouais, alors, le programme de thèse, donc, c'est ce spectrographe, qui porte un nom, d'ailleurs.
Oui, il a un joli nom, c'est Élodie.
Élodie, pourquoi d'ailleurs vous l'appelez comme ça?
Ah, c'est une longue histoire. C'est qu'en fait, le nom dans la tradition française, souvent, on utilise des noms de femmes pour des instruments. Et c'est un des privilèges, en général, des directeurs d'observatoire de décider du nom. Et le directeur d'observatoire a décidé Élodie parce qu'apparemment, il y a eu une de ses collaboratrices qui venait d'avoir un enfant, Élodie, et il s'est dit, ah ben voilà, on va donner le nom Élodie. Donc c'est comme ça que le nom. L'autre spectrographe, il s'appelait Aurélie. Donc, vous voyez, on avait Aurélie, Élodie. Il y a une grande tradition là-dedans.
Et donc, vous arrivez auprès de votre professeur Michel Mayer avec Élodie, ce spectrographe qui va changer le cours de l'histoire quand même.
Alors oui, absolument. Et ça, c'était la grosse surprise pour tous. C'est qu'en commençant le programme, alors évidemment, on commence le programme, ça tombait bien, Michel il devait partir en sabbatique, donc c'était le bon moment, rien n'allait se passer, vraiment rien ne pouvait se passer. Pour moi, c'était génial, j'avais accès à cet instrument. En gros, voilà les clés, commence le programme, et puis voilà, ça mettait du matériel pour ma thèse, c'était génial.
Et donc là, vous êtes à l'Observatoire de Haute-Provence.
Observatoire de Haute-Provence, donc on y va tous les deux mois, je descends une semaine pour observer, et puis une de ces étoiles, c'était 51 PEG. Elle faisait partie de la liste, elle était brillante, donc je l'ai observée assez vite. On avait une liste d'objets plus brillants qu'on observait un petit peu plus, et puis voilà que rien ne se passe comme prévu, parce que cette étoile, tout d'un coup, n'avait pas des vitesses constantes, ce qui était pas du tout attendu, parce que un instrument qui est stable doit donner tout le temps les mêmes vitesses, et une étoile en principe ne change pas de vitesse parce que c'est des vitesses cosmiques, donc ça va très lentement.
Donc là, vous tombez sur quelque chose de très atypique quand même.
De complètement surprenant, et ma première réaction, évidemment, n'est surtout pas de penser à une planète. Ce que je pense, c'est qu'il y a un problème. Et c'est un moment assez stressant. Vous pouvez imaginer, vous êtes en fin de thèse, vous réalisez qu'un instrument qui a pris beaucoup de votre temps de thèse, pour lequel vous avez fait toute l'analyse de données, il ne donne pas les résultats attendus. Donc, il y a eu un moment de panique pour moi. Je me suis dit, mon Dieu, il y a une erreur quelque part. Et vraiment, je me suis vraiment acharné pendant plusieurs mois, parce qu'il a fallu revenir, essayer de comprendre ce qui se passait, comparer avec d'autres étoiles, jusqu'à ce que j'accepte que non, c'était juste, ma mesure était correcte. C'était maintenant, il fallait savoir ce que ça voulait dire. Puis là, dès qu'on commence à avoir des variations de vitesse en fonction du temps, on va chercher des périodes. Et puis quand on a une période, on imagine un modèle. Le modèle simple de la période, c'est une planète. Ça aurait pu être une pulsation, autre chose. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles ce n'était pas évident que c'était cet effet-là. Donc je modélise une planète, je prends un peu de temps, ce n'est pas facile. Évidemment, il faut imaginer que une semaine, je rentre, deux mois après, je reviens. Évidemment, j'en parle à personne, surtout pas à Michel. Ce serait tellement embarrassant de lui raconter quelque chose où j'ai fait une erreur. Donc, j'attends d'être sûr, d'avoir le matériel. Et puis là, je lui dis, voilà, écoute, là maintenant, je pense avoir trouvé une planète.
Là, vous êtes que quoi, fin 94?
Là, on est déjà en 95. Là, on est au mois de mars, quand j'ai une orbite qui tient la route. Je lui envoie cette information. Il est à Hawaï. Internet, on ne passe pas d'image à ce moment-là. C'est le début des emails. Hein. Donc, il a cette réponse un peu laconique. Oui, on verra bien, je rentre bientôt, ne fais rien, attends-moi. Ouais. Voilà, c'est la réponse. En gros, il m'a avoué, il n'y croyait pas, mais c'est normal, hein, quelque part. Donc il revient, je lui montre tout ce que j'ai fait, puis il dit, écoute, je suis désolé, ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça tient la route, mais c'est juste pas possible. Et là, il me fait la théorie planétaire, que moi, je ne connaissais que partiellement, et il m'explique pourquoi ce planète ne peut pas exister. Alors, je me rends bien compte de la situation dans laquelle on est. On se dit, alors, on a des données qui semblent aller dans une direction, mais rien dans la théorie, dans aucun papier, on a une évidence que ça peut exister. Alors, on se dit, non, mais c'est pas possible, on va se faire ratatiner par nos collègues. On attend, on fait une prédiction. Si la prédiction est juste, à ce moment-là, on commencera à y croire. Alors, je fais un modèle mathématiques pour prédire les vitesses quand l'étoile va revenir. Donc l'étoile passe derrière le Soleil, revient au mois de juillet, et au mois de juillet, on retourne avec nos prédictions, et là, c'est comme dans un livre. Chaque nuit, bang, la mesure correspond à la prédiction, et puis à partir de la troisième nuit, on commence à y croire, mais comme on est très très prudent, peut-être notre éducation suisse, on dit on va encore attendre, quatrième nuit, la quatrième nuit, on dit non, mais là, c'est vraiment ça. On y est.
Donc et là, on y est. On a découvert la première planète.
Non, on se dit, on a un gros problème. Parce que maintenant, il va falloir expliquer ça aux autres et les convaincre.
Mais
et
là, vous savez bien ce que vous avez découvert quand
même. Alors nous, on est convaincus que ça tient la route. Mais on se rend bien compte qu'il va y avoir une montagne à franchir. Parce qu'on a une première planète, ce qui est d'abord une première. Et puis en plus, on n'a aucune idée de comment on l'a fait. Comment on la forme.
Didier Queloz, on va marquer une toute petite pause en écoutant la voix de Michel Mayer, et ensuite on revient sur le récit, parce que c'est pas terminé, il va falloir affronter aussi à la fois vos collègues et les médias dans cette année 95 extrêmement mouvementée. On va écouter Michel Mayer à l'Observatoire de la CIA au Chili en 2019. Il parle là des conditions d'observation quand on est la nuit justement et qu'on a le ciel pour soi.
avant que les nuits commencent, eh bien, il y a des collègues qui viennent de différentes coupoles. On peut boire ici un petit café ou quelque chose pour préparer la nuit. Et peut-être même quelques verres à vin blanc. Hein. C'est aussi le lieu où on a fait de mémorables fondues, hein, ici, lors d'événements particuliers. Donc voilà, c'est un endroit très agréable pour vivre, parce qu'il faut voir que les gens vivent dans le désert, ici, des semaines et des semaines. Il y a des moments où on attend. Simplement, on accumule des photons qui viennent de l'étoile. Et donc, à 2h du matin, quoi de mieux que de mettre un requiem de Mozart avec un volume énorme. On est seul ici, extraordinaire et tout, voilà.
Didier Queloz, alors là, c'est au Chili. Vous, c'était l'Observatoire de Haute-Provence, en l'occurrence. Vous avez vécu des nuits comme ça, finalement ?
Alors, pas l'Observatoire de Haute-Provence, parce que c'est tout maintenant une autre ambiance. En général, on avait plutôt la télévision de l'assistant de lui, ouais. Arrière-fond.
Il n'y avait pas la fondue et Mozart
Non, pas fondue et Mozart.
Cet été 95, donc vous le racontez, hein, vous testez une prédiction sur plusieurs nuits, chaque nuit la mesure s'aligne, donc ça confirme quand même que vous ne vous êtes pas trompé, et il va falloir maintenant affronter à la fois vos collègues et les médias. Donc dans quel ordre ça se passe en fait, hein ?
Alors c'est un moment assez intéressant, parce que c'est là qu'on se rend compte de la difficulté d'une découverte qui n'est pas attendue. D'abord, ce qu'on détecte, c'est pas, on ne voit pas la planète. On ne voit que des variations de vitesse. Mmh. Donc on doit faire un modèle d'interprétation pour convaincre nos collègues que ces vitesses qui changent ne peuvent être dues qu'au déplacement de l'étoile. Et là, on a d'autres phénomènes possibles. On a la pulsation de l'étoile, la rotation de l'étoile. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et on doit vraiment, dans le papier, on passe l'essentiel de notre temps à dire non, c'est pas possible parce que on montre l'évidence, etc. Mais on sait que même en montrant l'évidence, les gens vont commencer à aller chercher... la petite bête. Après, on se dit, mais il faut qu'on arrive à expliquer cette planète. Alors, on imagine, c'est une planète qui a perdu sa matière, etc. On arrive à une sorte d'explication fumeuse qui ne tient pas la route, d'ailleurs, mais on se dit, mais les données sont-elles qu'elles sont ? Voilà, on est désolé. En gros, c'est vraiment ça. On est désolé, on a trouvé la première planète
extrasolaire
de l'histoire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment ça.
Vous faites cette annonce, donc, c'est au congrès de Florence le 6 octobre 1995. Vous n'avez pas publié encore dans Nature à ce moment-là ?
Oui, alors on a envoyé le papier. Le papier, il a été référé. On a eu des référés positifs qui disent qu'il faut y aller. Nature hésite. Elle hésite parce que c'est une très grosse découverte. Ils n'aiment pas trop les trucs faux. Donc ouais. On a un petit moment de flou. Ils nous disent, écoutez, vous pouvez communiquer avec vos collègues, mais vous n'avez pas le droit de mentionner que c'est publié dans Nature parce que votre papier n'est pas encore officiellement publié. Ouais. Nous, on se dit, il faut qu'on sorte ça parce que cette planète, elle met 4 jours pour tourner autour d'une étoile. On se dit, mais que font nos collègues américains ?
4 jours.
Ouais, c'est 4 jours, donc elle est 20 fois plus proche que la Terre. C'est un Jupiter qui est très très chaud, il fait 1000 degrés sur la surface, elle est vraiment très très près, elle est plus près que Mercure, donc plus près que notre planète Mercure, donc elle est vraiment très proche. Donc en fait, le problème ici, c'est qu'on se dit, mais c'est pas possible, nos collègues doivent aussi en avoir. On va se faire scouper, comme on dit.
Donc, surtout que ça fait des années qu'ils sont sur le coup, les Américains.
Oui, on dit, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'ils n'aient pas trouvé ? Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup posé problème, parce que ça paraissait tellement simple de trouver cette planète, après, une fois qu'on l'a trouvée. Et là, la machine s'emballe, parce qu'on fait l'annonce, ça part dans la presse, il y a une sorte de double vague, il y a une petite vague européenne, mais alors il y a une vague américaine qui reprend ça, parce que pour eux, c'était quelque chose, ça faisait partie de la conquête spatiale. Eux, ça reprend ça, on a fait les premiers titres du New York Times, on a fait tous les grands journaux. C'est repris avec du retard par la presse européenne. Donc là, moi, j'apprends quelque chose, c'est que la presse européenne n'aime pas parler de science. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a en Europe. On ne fait pas de première page dans les journaux sur des sujets scientifiques. Maintenant, ça a un peu changé, mais ça reste toujours un gros problème. Les Américains, ils n'ont aucun problème avec ce genre de situation. Et c'est partout dans les médias. Mais le papier n'est toujours pas accepté. Alors, on n'a pas le droit d'en parler. C'est une situation très, très ennuyante. C'est très embêtant. Je dirais que c'était pas facile à ce moment-là. Mais bon, après 10 jours, Nature a quand même dit non, mais OK, là, on y va, on publie. Puis voilà. Donc, c'était un petit épisode un peu stressant qui fait que les médias se sont emparés de la nouvelle. Et en fait, on a réalisé à ce moment-là, on savait que c'était important, mais on a réalisé de la charge émotionnelle qu'il y a derrière la découverte d'une planète, et c'est pas parce qu'on avait découvert une planète, c'est parce qu'une planète mène à quelque chose d'autre. Ouais. Et c'est ça qu'on a compris à ce moment-là. C'est le problème de la vie dans l'univers.
C'est ça. Donc c'est vraiment, il y a double coup dans la découverte.
Ouais. Mais pourtant, notre planète n'avait rien à voir, on n'a jamais même parlé de ça. Ouais. Mais on fait l'association, et en fait, cette association va nous porté au cours de ces 30 dernières, ouais, prochaines années, et ça devient tellement fort que maintenant ça devient un thème majeur pour moi de recherche.
Absolument, on va en parler dans un instant. Encore un petit mot dans tout ce scepticisme qui entoure quand même l'annonce donc de la découverte de cette première exoplanète en 95, Didier Queloz. Il y a quand même une petite dimension sociale aussi, ces deux Suisses qui appartiennent à une petite université dans un observatoire qui est presque un peu délabré quand même, qui est au point de fermer, l'observatoire de Haute-Provence, et bim, vous bouleversez toute l'astronomie mondiale.
Ouais, alors ça
a dû rester en travers de la gorge pas mal de scientifiques quand même.
Oui, alors c'est assez intéressant. C'est vrai que pour l'Observatoire de Haute-Provence, je pense que c'était une jolie petite revanche parce que eux, ils étaient vraiment en danger à ce moment-là. Donc tout d'un coup, ils montraient qu'ils avaient une utilité. La deuxième chose, c'est qu'on rappelle que la science n'est pas faite que de grands projets. De temps en temps, il faut des petits projets flexibles et créatifs.
Bim.
Et puis qu'avoir une bonne idée, ça ne dépend pas d'être 100 personnes. En général, les meilleures idées, on les a tout seuls. Donc en fait, peut-être ça rappelle certaines bases. Ceci dit, c'est pas contre les grands projets parce qu'à des moments donnés, vous avez besoin de grands projets, vous avez besoin du CERN, vous avez besoin du VLT, de l'ELT. Donc en fait, je pense que les deux ont leur place. Simplement, c'était une petite piqûre de rappel.
Ouais. Comment s'appelle donc cette planète, cette première exoplanète?
Ah, on n'est pas très créatif. En général, on met des petites lettres. Donc, en général, on l'appelle du nom de l'étoile, puis on met un B. 51 Pégase, B.
Voilà.
Après, il y a plein de petits noms, mais ça n'a pas...
Elle a un petit nom perso pour vous ou pas?
Non. Ça reste l'étoile 51 Pég.
Ouais. Vous avez douté à un moment ou pas? Est-ce que... oui, il faut quand même avoir des nerfs d'acier pour affronter ce que vous avez affronté là.
Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, je dois vous l'avouer, ça a été très dur pour plein de raisons. Moi, j'ai douté jusqu'à ce que les Américains... En fait, j'ai douté, non, j'étais à 99%, mais j'ai bien réalisé que je jouais ma carrière, au début de ma carrière, avant de la commencer. J'étais mort, si c'était faux. Dès que les Américains ont confirmé les paramètres de l'orbite, je me suis dit, c'est bon, au moins... nos données, mes données, tout mon travail est correct. Mmh. Après, il y a eu beaucoup de débats au niveau de l'interprétation. C'était très dur parce que pendant 2-3 ans, on a continué de trouver des planètes de ce type, mais il y avait la majorité de la communauté qui était sceptique parce que les gens disaient non, mais non, il a fallu attendre 4 ans pour qu'un transit soit détecté. Et là, bon, c'était la fin de la discussion. C'est clair qu'elles existaient. Puis les gens ont bien dû admettre que oui, il y a beaucoup de planètes et qu'elles sont pas toutes similaires à celles de notre système solaire.
Ouais. Puis c'est un bon compagnonnage aussi avec votre professeur, Michel Mayer. Alors, c'est aussi l'histoire du prof et de son élève, quand même.
Mais j'ai eu énormément de chance. J'entends, Michel, ça a été un professeur extraordinaire. Je pense que j'ai énormément appris et c'est pas que j'ai appris mon métier de physicien, j'ai appris comment être un chercheur. Il y a plein d'aspects qui sont extérieurs. Ça a été une aventure personnelle et ça fait un lien très particulier que j'ai avec Michel et que je revis. C'est très intéressant parce que maintenant je le vois assez peu parce que on ne vit pas dans les mêmes pays et dans les mêmes villes. Mais quand j'ai l'occasion de le voir, à l'occasion, il y a certaines réunions où on se retrouve, c'est magique.
Ouais.
Donc oui, j'ai beaucoup de chance.
Et en plus, vous avez partagé un Nobel ensemble.
Oui, alors c'est
ça,
sûr.
Ça existe beaucoup, ça, dans l'histoire des Nobel? Un prof et un élève qui partagent ce prix ensemble ou pas?
Il y a eu des cas, les découvertes de l'ADN, hein, c'était la même chose, c'était le professeur et puis son post-doc.
Donc ça aussi, ça ajoute quelque chose, j'imagine, à votre histoire.
Oui, hein. Moi je pense que le couple, c'est toujours la même chose. Je dis toujours, il y a l'énergie de la jeunesse et de la créativité et peut-être un peu l'insolence qui se mélange avec l'expérience et la stratégie.
Sérénité.
Oui, la sérénité. Je ne suis pas sûr que Michel est tout en serein.
dans ce que vous avez décrit,
Surtout, il est résistant, ça, ouais, c'est sûr. Et il a de l'expérience. Je pense que ce mélange est un mélange qui est très créatif.
On va écouter juste pour le plaisir le décollage du télescope spatial James Webb. C'était en décembre 2021.
5, 4, 3, 2, unité, top.
Allumage Vulcain. Engine start. Décollage, lift-off from a tropical rainforest to the end of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program
reported. La fusée se fraye un chemin à travers les nuages.
The Ariane 5 rocket continues to fly uphill in nominal fashion.
De façon tout à fait nominale.
Didier Queloz, James Webb, donc, décolle le 25 décembre 2021, mis en service en 2022. Et il a joué un rôle aussi dans la détection des exoplanètes, James Webb.
Alors, le James Webb, il joue un rôle extraordinaire. En fait, c'est pas tellement dans la détection, parce qu'on est au-delà de ça maintenant, on n'est plus vraiment dans la question est-ce qu'elles existent, est-ce qu'on les trouve. Oui, on sait qu'elles existent, on va simplifier. En fait, toutes les étoiles du ciel ont des planètes. Mmh. La seule question, c'est à quoi ressemblent ces planètes. Et c'est là que le James Webb joue son rôle, parce qu'on a énormément de planètes. En fait, la majorité des planètes sont trouvées avec des orbites particulières, qu'on appelle les orbites de transit, c'est-à-dire que la planète passe devant son étoile, mmh. et ça nous donne l'occasion d'étudier son atmosphère et sa structure et sa densité. Et c'est dans ce domaine que le James Webb il joue un rôle énorme, parce que c'est le plus gros télescope qui a cette capacité d'observer des longueurs d'onde qui n'arrivent pas sur la surface de la Terre. Et ça, c'est important pour nous, et ça nous permet d'explorer des questions comme par exemple, est-ce qu'elles ont une atmosphère? Est-ce qu'elles ont de l'eau? Et ça, c'est quelque chose que le James Webb peut faire.
Et est-ce qu'il y a des signatures biochimiques aussi? Parce que c'est la grande question pour vous aujourd'hui.
Alors, la question des signatures biochimiques, c'est une question qui est compliquée. Je dirais, il y a plusieurs étapes. Les premières étapes pour nous, c'est d'arriver à avoir une compréhension, une lecture simple de qu'est-ce qu'on entend par une planète qui pourrait éventuellement développer de la vie. Et il y a certains critères de base que, à la limite, tout le monde plus ou moins serait d'accord en disant, oui, alors il faut quand même une planète rocheuse, il faut quand même un solvant, l'eau, on aime bien. Mmh. Donc déjà, arriver à montrer qu'il y a une atmosphère à base d'eau et puis qu'il y a une surface solide, c'est déjà un point énorme. Ça va déjà dans cette direction. Je vous rappelle juste que Mars n'a plus d'atmosphère, et puis que Vénus, on a une atmosphère, mais c'est pas terrible, hein. C'est de l'acide cyanhydrique, donc il y a plus d'eau. Donc déjà cet élément-là, d'abord d'avoir exploré les possibles. On est vraiment dans ces questions-là. Puis après, alors on se dit, bon, ok, alors maintenant, est-ce qu'on va aller plus loin? Alors on peut commencer à se dire, oui, mais alors est-ce qu'il y a des molécules qui pourraient nous indiquer une activité biologique? Et ça, c'est toujours un peu une situation un peu délicate, parce que soit vous utilisez un modèle que vous comprenez bien, qui est exactement le modèle de la Terre, à ce moment-là, vous recherchez les molécules que vous avez sur Terre, donc oxygène, azote, etc. Vous allez chercher ces molécules, puis vous essayez de recréer ceci. Mais ça présuppose que vous allez chercher une planète exactement comme la Terre. Et actuellement, on n'en a aucune. Aucune des planètes qu'on a trouvées
donc sur les
est 6000, un analogue. Exactement. 6000. Aucune est un analogue à la Terre. Elles sont légèrement différentes, elles sont plus proches de leurs étoiles, plus chaudes, plus froides, elles sont autour d'étoiles différentes. Donc, il y a une difficulté à intégrer la diversité planétaire actuellement. Donc, le James Webb, il apparaît plutôt dans ce niveau-là, il va nous faire les premiers pas, je dirais, vers la compréhension des conditions planétaires qui peuvent éventuellement mener à la vie. Maintenant, vous savez, comme toujours en science, il y a toujours des surprises, et moi, je dis toujours, qui sait? Peut-être qu'on peut avoir un coup de chance, et il y a, c'est vrai, des tentatives actuellement d'utiliser certains types de planètes différentes pour identifier la possibilité de vie. Mais c'est vraiment, vous voyez, je suis très prudent. Hein, ouais. Tentative, possibilité, je reste très prudent là.
Donc, alors, j'ai plein de questions là-dessus. Ça dit quoi de la Terre d'abord? C'est que notre planète est vraiment très très singulière.
Alors, ce qui est absolument magique sur la Terre, c'est qu'on peut simplement la comparer à Vénus et à Mars. On a la quasi-certitude maintenant que Mars, durant le premier milliard d'années du système solaire, donc ça fait 4,5 milliards d'années que le système solaire existe, a été créé. Donc le premier milliard, on pense qu'il y avait des océans d'eau sur Mars. Donc quelque part, il y avait une atmosphère, il y avait de l'eau. Donc on pourrait dire que Mars était relativement semblable à la Terre au cours du premier milliard d'années. Vénus, on ne sait pas. On ne sait pas si Vénus a perdu son eau ou si elle ne l'a jamais eue. Où il y a des phénomènes qui ont empêché Vénus de rester comme la Terre. Mmh. Mais là, vous avez déjà un concept qui est très intéressant, qui vous montre que ce n'est pas parce que vous êtes terrestre pendant un certain temps que vous allez rester. Donc la première question, c'est de mettre la Terre dans ce concept. La Terre est unique parce qu'elle est restée habitable très longtemps, ce qui n'est peut-être pas le cas de Mars. Et ça, quand vous pensez à la vie, c'est très intéressant, parce que quand vous pensez à la vie animale, voilà, celle qui se promène, eh bien, ça, c'est arrivé uniquement durant le dernier demi-milliard d'années. Ça fait uniquement 500 ou 600 millions d'années que les animaux sont apparus sur Terre. Avant, la vie était bien présente. Elle est présente à peu près un milliard d'années après la création du système solaire sur Terre. On a des évidences, mais c'est bactérien. Donc, il y a le concept de la durée. Et déjà ça, pour nous, c'est déjà fascinant, parce qu'on se dit, est-ce que la Terre est spéciale dans ce cadre-là?
Alors, Didier Queloz, pour vous, là, personnellement, philosophiquement, quelle est la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs, selon vous?
Alors, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la probabilité, c'est le fondement de la physique. Les lois de la physique, les lois de la chimie sont les mêmes partout. Donc, donnez-moi des conditions similaires à la Terre, je refais de la vie.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que la vie a fait? Il y avait des conditions chimiques et physiques qui ont été propices à l'émergence de la vie. Donc, si vous imaginez que la vie a la même structure, moléculaire, hein, je parle de la structure moléculaire ou chimique que la vie qu'on connaît sur Terre, elle, et que vous avez des conditions similaires, elle doit arriver. Donc il y a tellement d'étoiles et tellement de planètes, moi je suis convaincu qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Maintenant, est-ce que la vie a le temps de se développer pour devenir animale, et puis encore pour développer de la conscience, parce que là, c'est vraiment le dernier million d'années hein, qu'on est apparu, nous. Ça, c'est une autre question, et peut-être que la possibilité d'une planète de rester habitable longtemps, peut-être c'est très rare.
Et avec quel instrument on cherche ça aujourd'hui, justement ?
Alors, on cherche ça de plein de manières. D'abord, on essaie de trouver ces planètes qui ressemblent à la Terre, et il y a beaucoup de programmes maintenant qui vont aller dans cette direction. On sait comment les détecter, il faut juste mettre en place des nouvelles approches, on a des instruments très précis, il faut juste avoir plus de temps télescope, plus d'objets systématiques, et puis il faut se battre un peu contre l'étoile qui nous embête un peu, elle rajoute un peu du bruit de fond, on dirait ça en radio. Maintenant, on peut imaginer les instruments du futur. Vous voyez, on parle de base sur la Lune, on parle de conquête de Mars. Ben, en même temps, avec ces technologies, hein, si ça arrive un jour, on devrait pouvoir faire des instruments beaucoup plus gros que le James Webb Space Telescope. À ce moment-là, on aura la possibilité d'aller voir ces planètes et d'aller extraire d'informations directement de leur atmosphère. Parce que ça, c'est vraiment le gros problème actuellement. On ne peut les voir que pendant un bref moment, quand elles passent devant leur étoile. On aimerait bien les voir en permanence, voir s'il y a des saisons. Et ça, on devrait y arriver.
Est-ce que vous pensez que de votre vivant, vous assisterez à la découverte justement de signatures, de biosignatures quelque part ailleurs dans l'univers ou pas ?
Alors, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par biosignature. Moi, j'espère qu'on aura, de mon vivant, l'évidence qu'il existe des atmosphères pas trop différentes des atmosphères de la Terre sur d'autres planètes sans bas la Terre. On va trouver des planètes comme la Terre, parce que je les cherche, et d'autres que le font aussi, donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas.
Ouais.
Donc ça, c'est probablement les 10-15 prochaines années. Et puis, dans les 30 prochaines années, on devrait être capable d'aller extraire de l'information de ces atmosphères. Maintenant, de là à prétendre qu'il y a de la vie, pour moi, la seule chance de le faire, ce serait d'aller ramener des morceaux de Mars. Il y a des morceaux qui sont prêts à être ramenés, mais on a arrêté pour l'instant les missions qui vont les ramener. Mmh. C'est d'aller les ramener et d'utiliser le système solaire. Parce que le système solaire, là, on peut vraiment ramener des choses et on peut aller étudier des isotopes assez fins qui pourraient être la trace qu'il y a eu ou qu'il y a aujourd'hui de l'activité vivante sur Mars. Donc si vous vous demandez où chercher de la vie aujourd'hui, avec le plus de chances dans ces 30 prochaines années, c'est sur Mars.
Ouais. Donc vous êtes prêt pour un deuxième prix Nobel, Didier Queloz ?
Oh, je pense que ça suffit.
parce que ça, ce serait quand même l'objet d'un second prix Nobel. Évidemment, non ?
Oui,
bien sûr. Bon, vous trouverez de la place pour le mettre quelque part.
Mais je crois qu'un, c'est déjà bien.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu au micro de la Terre au Carré aujourd'hui. Bon retour alors à Cambridge ou à Zurich, là où vous enseignez aujourd'hui. Merci infiniment d'être venu dans notre émission.